RFI. La France à midi.
La France qui continue de se préparer au changement climatique. Le Premier ministre Michel Barnier va présenter tout à l'heure le plan national d'adaptation au changement climatique. Conçu à partir de l'hypothèse d'un réchauffement de 4 degrés en France d'ici à la fin du siècle contre 1,7 à ce stade, ce texte a pour objectif de présenter toute une série de mesures concrètes destinées à préparer le pays à ses conséquences, à des conséquences qui sont bien réelles et concrètes sur le territoire. On l'a vu encore ces derniers jours avec ces inondations qui ont frappé le sud-est du pays, mais aussi l'érosion des côtes ou encore les différentes canicules cet été. On en parle avec Quentin Guéquière, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargé de campagne et plaidoyer inégalité climatique chez Oxfam France. Tout le monde est concerné finalement, Quentin Guéquière, par ces changements à appliquer.
Oui, complètement. Le changement climatique, il est déjà dans la vie de tous les Françaises et les Français. Il faut savoir qu'il y a 26 droits fondamentaux sur les 50 que garantit la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui sont directement atteints par le changement climatique pour vous et moi. Hein, des droits au logement, droits à la santé, droits à l'éducation. Donc oui, ça concerne vraiment tous les Françaises et les Français aujourd'hui. Oui.
On va rentrer dans le détail justement de ce qu'il faut faire pour faire face à cette hypothèse d'un réchauffement de plus 4 degrés en France. Il faut déjà parler des villes. Est-ce que les villes sont prêtes à affronter cela ?
Non, globalement, on n'est pas du tout prêt à faire face collectivement au réchauffement climatique. Les villes, non, mais c'est vrai pour l'ensemble du territoire. On le voit, ce qui nous attend est effectivement faramineux. Et pour y faire face, l'État met en place ce plan, mais ce plan, que je rappelle, arrive avec un an et demi de retard, puisque l'État avait l'obligation de le publier au 1er juillet 2023. Or, faute de priorisation et du coup de dépriorisation de la part du gouvernement, ce plan n'arrive qu'aujourd'hui, alors que ça n'empêche pas les aléas climatiques extrêmes. On le voit tout simplement dans le Pas-de-Calais, on l'a vu là plus récemment dans la moitié sud de la France, notamment en Ardèche. On n'est pas frais en fait, parce qu'il y a 400 millions d'euros de dommages. Donc non, on n'est pas prêt.
Et un retard de présentation de ce plan qui s'explique aussi par la situation politique en France avec les élections européennes de début juin, la dissolution de l'Assemblée, le gouvernement qui a mis du temps à se mettre en place, ce qui explique aussi ce retard. Vous évoquez les villes, il y a aussi les campagnes. Les campagnes ont un rôle aussi important parce que quand on pense au changement climatique, on pense aux villes, au béton, à la végétalisation, à l'urbanisation, mais il y a aussi les campagnes et ça passe aussi par là.
Oui, complètement. La ruralité est aussi complètement concernée par d'autres risques que les zones urbaines. Par exemple, à la campagne, ça va être justement comme la ruralité, donc ça va être les rendements agricoles. On est à moins 20% cette année des rendements agricoles à cause justement des précipitations les plus intenses qui se sont passées, qui deviennent maintenant inédites. Et c'est également le cas sur les feux de forêt, puisqu'on a toute une zone qui était avant pas du tout concernée par les feux de forêt, qui le devient progressivement. Et donc il s'agit maintenant de repenser la façon dont on s'organise à l'arrivée de ces futurs méga-feux, que ce soit par le renforcement de la sécurité publique ou par éventuellement quitter des territoires qui seront trop affectés demain.
Et justement, c'est une possibilité, ça, quitter un territoire, notamment parce qu'il y a des incendies, mais aussi parce qu'ils ont été construits en zone inondable ?
Ah mais complètement, l'analyse d'Oxfam, elle est très claire là-dessus et elle est aussi partagée à la fois par le Conseil pour le climat et par le GIEC, à cause notamment de l'érosion du trait de côte. L'élévation du niveau de la mer concrètement provoque une érosion de nos terres et a déjà avalé 30 km². C'est l'équivalent de la ville de Lille. Et ça va continuer à s'accélérer à mesure que le changement climatique continue d'exister. Donc du coup, à partir de ce moment-là, évidemment qu'il faut penser ce qu'on appelle l'habitabilité de certains territoires et penser à se retirer de ces endroits à mesure que le réchauffement climatique commence à y arriver de façon trop intense. Sinon, les conséquences seront intolérables. En fait.
Tout cela, ça a un coût, inévitablement. C'est à l'État de porter ce coût-là ou c'est finalement à d'autres opérateurs ?
Non, évidemment, c'est l'État qui, en tant que puissance publique, a une garantie de vos droits fondamentaux les plus essentiels. Et l'État doit avoir cette capacité de stratège, de pouvoir financer à travers d'abord un fonds propre qui permettra ensuite aux collectivités qui sont les premières concernées de pouvoir activer les leviers opérationnels de leur résilience, mais aussi en fournissant des moyens humains, en coordonnant la recherche sur le sujet, en mettant en place justement des bonnes pratiques partout sur le territoire, et ça doit faire l'objet justement de ce PNAC. On estime qu'il faut plusieurs dizaines de milliards d'euros, Oxfam estime qu'il faut plusieurs dizaines de milliards d'euros par an pour pouvoir bénéficier d'une adaptation juste.
Alors le PNAC, c'est le plan national d'adaptation au changement climatique. On parle du rôle de l'État et de ses finances. L'idée, c'est aussi de mobiliser d'autres moyens que ceux de l'État, peut-être des grandes entreprises qui pourraient participer à ce financement-là.
Bah oui, effectivement, Oxfam promeut un manifeste fiscal notamment qui vise à taxer les grandes entreprises qui auraient pu d'ailleurs profiter du réchauffement climatique pour s'enrichir. Et donc c'est à elles qu'il faut aussi demander de faire des efforts, que ce soit sur le plan de permettre l'indemnisation des victimes du changement climatique ou de permettre à l'État de financer l'adaptation au changement climatique. Oui.
Aujourd'hui, on dit qu'il y a urgence. Comment on fait pour sensibiliser les personnes qui sont concernées? Typiquement, une personne qui a sa maison depuis plusieurs générations dans un endroit qu'il va peut-être falloir quitter sa maison, son domaine, sa propriété pour un agriculteur. Comment on fait pour leur expliquer tout cela? On leur dit qu'ils n'ont pas le choix?
Malheureusement, il faut qu'il y ait une sensibilisation globale qui soit faite à l'échelle nationale. Ça, c'est aussi la responsabilité de l'État de mettre en place cette sensibilisation, de faire comprendre aux Françaises et aux Français que le changement climatique, maintenant, c'est une réalité quotidienne. Et que, effectivement, dans le cas le plus extrême, ça peut forcer les personnes à quitter le territoire sur lequel elles ont vécu. Aujourd'hui, on voit que ça va être le cas à cause de l'érosion du trait de côte, à cause potentiellement des méga-feux, mais aussi à cause de sécheresses répétées ou d'inondations répétées.
Vous écoutez, Quentin Guéquière, on a l'impression que finalement on est sur une préparation au pire ou du moins du moins pire.
En fait, ça dépend parce que l'adaptation peut être heureuse et peut provoquer ce qu'on appelle des co-bénéfices. L'adaptation, ça peut renforcer l'attractivité d'un territoire par la renaturation, par justement le fait de renaturer les villes, de pouvoir bénéficier d'un cadre plus agréable à vivre et acceptable. Mais ça ne peut pas se faire sans une action aussi ambitieuse de l'État dans tout ce qu'on appelle le volet atténuation, donc la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et sans justement une base très solide d'atténuation, donc le fait de faire en sorte que le réchauffement climatique soit le moins fort possible, effectivement, on ne peut pas nécessairement réussir l'adaptation.
Il y a aussi la question des matériels, entre guillemets, des habitations qui sont encore qui sont présentes aujourd'hui. Est-ce qu'elles sont prêtes? Je pense notamment, par exemple tout bête, les lignes ferroviaires. Est-ce que les caténaires, est-ce que les rails sont prêts à supporter ce réchauffement climatique?
Non, effectivement. Et la SNCF en a très bien conscience. Et d'ailleurs, à un plan d'adaptation à ce sujet, mais qui est confronté à pas mal d'obstacles. Et de manière générale, au-delà de la SNCF, il y a 50 milliards d'euros d'argent public qui aujourd'hui ont besoin d'être adaptés. C'est-à-dire que ces dépenses aujourd'hui publiques sont faites à ce qu'on appelle climat constant. Donc ça veut dire qu'elles font comme si le climat de demain n'allait pas changer. Or, aujourd'hui, il est nécessaire de tout repenser sous les lunettes de l'adaptation, de faire en sorte qu'on puisse avoir des dépenses publiques qui regardent complètement comment ça va se passer demain pour qu'elles puissent être pérennes, en fait, tout simplement. Et ça ne sert à rien de construire un hôpital une zone qui demain sera complètement inondée, tout simplement. Et c'est ça, en fait, qu'il faut faire aujourd'hui.
Et donc, on a bien compris, on le disait en début de cet entretien, que tout le monde est concerné et finalement que tout ce qui nous entoure est concerné par cette situation-là et qu'il faut donc s'adapter. Merci beaucoup, Quentin Guéquière, chargé de campagne et plaidoyer inégalité climatique chez Oxfam France. Merci à vous d'avoir accepté l'invitation de RFI. Il est 13h18 ici à Paris.